BFM Plus.
L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Aujourd'hui, j'ai autour de la table deux personnes, Guy Guyot pour le Centre Documentation Tiers-Monde et Marie-Claude Kézac pour le comité Sankara. Alors, parce que nous avons des événements, bien sûr, à vous annoncer. D'abord, un café actualité qui va se dérouler demain, mardi, à l'espace Martin Luther King de 12 à 14 heures et qui a pour thème... le 70e anniversaire des droits de l'homme, bilan et perspective, et que nous avons invité pour traiter ce problème, Amnesty International, le groupe de Montpellier. Alors, bien sûr, ça a tout à fait un lien avec ce dont va vous parler aussi Marie-Claude, puisqu'il s'agit de marquer... le 20e anniversaire de l'assassinat barbare du journaliste burkinabé Norbert Zongo, que le comité Sankara de Montpellier, Thomas Sankara, n'oublie pas, bien sûr, et qui organise une projection débat ce jeudi 13 décembre à 20h à la Gerbe. Alors, il s'agit, bien sûr, des droits de l'homme, et l'anniversaire, c'est aujourd'hui. Donc, nous ne pouvions pas mieux choisir que d'en parler. Alors, Guy Guyot, pourquoi est-ce important de faire de l'information autour de cette Déclaration universelle des droits de l'homme ?
Voilà, je voudrais faire un petit rappel historique, rapide. C'est effectivement il y a 70 ans, le 10 décembre 1948, qu'ont été adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle a participé d'une manière importante la France à travers la personne du juriste René Cassin et qui a été donc adoptée par les 50 États à l'époque et traduit depuis en 512 langues et aujourd'hui est adopté par les 193 membres de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est un texte très très important qui prend sa source déjà dans la réflexion dans un certain nombre de pays, mais aussi de la France à travers les textes qu'on été adopté en 1789, en 1793, en 1795 et qui ont ensuite été bien sûr complétés par un certain nombre de pays dont la Grande-Bretagne et les États-Unis notamment. Après la guerre de 14-18, il y a eu la création de la Société des Nations qui, malheureusement, n'a pas été à la hauteur des enjeux et puis du contexte politique, notamment européen, et n'a pas empêché la montée d'un certain nombre de régimes totalitaires et de la Deuxième Guerre mondiale avec toutes ces horreurs qui ont abouti également à Hiroshima et Nagasaki à la fin de cette grande guerre. Alors après 1945, il y a une volonté d'un certain nombre de pays, des grandes puissances, pour réaffirmer plus jamais ça. Et donc la mise en place d'un engagement, d'une déclaration universelle des droits de l'homme. Mais déjà dès 1941, le président Roosevelt réaffirmait la pertinence de quatre libertés: la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de vivre à l'abri de la peur. Aujourd'hui, bien ces textes fondamentaux sont remis en question, compte tenu d'une part du contexte général géopolitique qui voit la remontée des tendances totalitaristes dans un certain nombre de pays. Les États-Unis sont malheureusement, à travers l'élection de Donald Trump, dans cette course à la remise en question, puisque, je vous le rappelle, les États-Unis ont démissionné de cette commission
des
droits de l'homme, et ça, c'est vraiment quelque chose de très dangereux, de très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une remise en question de ce concept d'universel, avec une accusation d'un certain nombre de pays que c'est une création du monde occidental, voire même de l'Europe. Et ça se traduit notamment en 1990 par la conférence islamique qui adopte une déclaration musulmane des droits de l'homme. En fait, aucun des États qui a reconnu cette déclaration universelle des droits de l'homme ne l'a remise en cause, et la plupart de ces États ont adhéré aux deux pactes qui découle de cette déclaration universelle des droits de l'homme, le premier concernant les droits civils et politiques et le second des droits économiques.
Économiques et sociaux.
Droits économiques et sociaux, effectivement. Alors,
faut rappeler peut-être aussi qu'il y a des chartes, notamment la charte africaine des droits de l'homme, qui montre bien l'universalité de cette question.
Tout à fait. Alors, le deuxième élément que je voulais indiquer, c'était que cet aspect de compléter cette déclaration universelle des droits de l'homme est complété par la reconnaissance de la diversité culturelle et religieuse de chaque État, adopté par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne en 1993. Et ça rejoint également la déclaration d'un philosophe, Julien, qui disait que cette déclaration universelle, elle a été effectivement élaborée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'il est nécessaire de la réactualiser, y compris aujourd'hui, compte tenu
à
la fois de l'évolution des États et puis de cette dimension de mondialisation qui remet en question un certain nombre d'aspects des droits de l'homme. Alors, plus particulièrement, la suprématie des droits économiques, mais là, pas universel, qui s'est bien plus accaparé par un certain nombre de multinationales, d'une part, et puis d'autre part, par la remontée de ce concept de souveraineté au niveau de chaque État.
Tout à fait.
Alors, bien sûr, il faut rappeler que c'est une déclaration de principe, mais qu'il y a de nombreuses conventions qui ensuite spécifient et sont sous le contrôle d'une cour internationale.
Alors, ça c'est le premier point. Effectivement, c'est que cette déclaration, ce n'est pas un traité, que heureusement, elle a été en quelque sorte incarnée par un certain nombre de textes qui ont une valeur de traité, donc c'est les conventions que vous signalez, et avec les aspects de sanctions et d'institutions qui puissent juger de l'application ou pas de ces conventions. Alors, ce dont on s'aperçoit depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est que même si c'est des institutions existent pour condamner tel ou tel pays, en fait, de plus en plus de pays prennent largement des libertés et n'appliquent pas du tout les décisions des institutions en question. La Cour pénale internationale qui a été créée en 2002 et qui a été adoptée par 123 pays, là aussi prend un certain nombre d'arrêtés, disons, mais il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas mises en application par les États. Je ne vais pas faire de la délation, mais enfin, entre la Russie, la Chine, la Turquie, la Syrie, les États-Unis, avec Guantanamo, enfin, un certain nombre de pays, bien qu'ils soient signataires, prennent de larges libertés, entre guillemets, pour appliquer ou pas les décisions de ces instances. Et donc là, il y a une réflexion globale nécessaire à la fois au niveau des États, mais au niveau également des opinions publiques et puis des peuples, à travers des organisations de la société civile, des organisations internationales de la société civile. Je pense particulièrement à des organisations non gouvernementales comme Amnesty International, mais aussi la Confédération internationale des syndicales. Et puis une autre organisation qui va d'ailleurs fêter son 20e anniversaire l'année prochaine, qui a été créée en 1919 et qui est l'Organisation internationale du travail. Mais ça, on aura l'occasion de représenter cet anniversaire en début d'année prochaine.
Alors justement, Angela Merkel, dans une des dernières rencontres internationales, a bien fait remarquer que si actuellement on avait à refaire cette déclaration universelle, ça serait peut-être bien difficile de la faire aussi complète.
Oui, tout à fait.
L'actualité nous le montre d'ailleurs. L'actualité nous
le montre. Et pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines, Christine Lazerge, professeure de droit et qui est sur Montpellier, qui est bien connue à Montpellier, qui vient de terminer son mandat de présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme le 24 novembre 2018, vient de sortir un rapport, un bilan de sa législature et qui montre justement l'entrave qui à l'application des droits de l'homme qui est favorisée par la prise du pouvoir économique, la suprématie du pouvoir économique sur le pouvoir politique. Et donc là, c'est quelque chose de très très important que les politiques, alors sous une forme ou sous une autre, puissent effectivement prendre des décisions en matière politique au sens noble du terme, c'est-à-dire le gouvernement de la société, par l'ensemble des citoyens. Et là, il y a une réflexion. Actuellement, la mobilisation de ce qu'on appelle le conflit des gilets jaunes, là, le montre bien. Là aussi, il y a également, au-delà de l'aspect réflexion, des réalisations concrètes nécessaires au plus près des citoyens, au niveau de la vie quotidienne, qui sont à prendre en compte pour la réalisation concrète d'une véritable vie démocratique, que ce soit en France ou de l'ensemble des pays du monde.
Alors, le Café Actualité, je le rappelle, se déroule donc demain mardi à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. C'est un échange qui va avoir lieu autour d'un petit audiovisuel qui rappellera les principes généraux de cette déclaration. Nous avons tous à nous informer, en fait, parce qu'on ne connaît peut-être pas tous les articles comme on pourrait le faire. Donc, je vous invite à venir échanger donc, entre 12 et 14 heures à l'espace Martin Luther King avec Amnesty International. Alors, bien sûr, nous allons écouter de la musique à apporter Marie-Claude.
Alors, je vous propose, c'est un prologue de ce qu'on va dire tout de suite après. C'est Journaliste en danger, donc c'est une chanson d'Alpha Blondie qu'il a écrite à l'occasion de l'assassinat du journaliste dont nous allons parler tout à l'heure, du beau journaliste burkinabé. Donc, Journaliste en danger sur l'album Démocrature.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer.
Alors, qui était justement ce journaliste burkinabé?
Alors, Norbert Zongo était un journaliste, c'était un homme assez extraordinaire, je dois dire. D'ailleurs, son assassinat le prouve. Hein. Et il avait été professeur d'université. Et puis, au moment de la prise de pouvoir par Thomas Sankara, il a changé de direction et il est devenu journaliste. Il avait créé qui existe toujours d'ailleurs, un journal qui s'appelle L'Indépendant, qui était très très prisé par les Burkinabés, qui sont quand même toujours à l'affût de tout ce qui est actualité, et qui faisait des articles pas du tout correctement politiques, justement, dans son pays, entre autres. Et il faisait partie, on vient de parler de la Déclaration des droits de l'homme, et il faisait partie de ces journalistes enragés pour le respect des droits de l'homme. Voilà. Et donc, moi, je suis d'autant plus sensible à cette commémoration que il m'a été donné, malheureusement, de vivre ça en direct, puisque le 13 décembre, mon avion se posait sur la piste de l'aéroport de Ouagadougou, au moment même où lui-même était assassiné et brûlé dans sa voiture avec son frère, son chauffeur et un ami. Et que j'ai vécu ça. Et on avait anticipé un petit peu avec des amis en disant, mais moi j'avais dit non, ils vont pas oser. Parce qu'à ce moment-là, il était en train de faire une enquête sur une injustice énorme qui avait abouti à l'assassinat du chauffeur de François Compaoré, qui est donc le petit frère on dit là-bas, on appelle ça comme ça, le petit frère du président. Et ce garçon, David Rodaogo, a été assassiné au prétexte qu'il aurait volé de l'argent. On avait mis près de son corps une mallette avec de l'argent. Et en fait, il possédait des secrets d'État ou des secrets qui compromettaient énormément François Compaoré. Alors, en sachant que François Compaoré est actuellement en France, que il avait eu vraiment l'insolence de venir et de se vanter de circuler partout à la suite des événements qui ont chassé son frère du pouvoir, Blaise Compaoré, et qu'actuellement il est en France, il est sous surveillance, et que il y a quelques jours, l'État français a donné son accord pour son extradition vers le Burkina pour qu'il soit jugé là-bas dans son pays. Et je dois dire que cet assassinat d'ailleurs a été une épine dans le pied de son frère, parce que c'était vraiment la chose à ne pas faire, parce que là, à ce moment-là, moi je vous dis, j'ai vécu ça en direct, ça a été terrible, la capitale a été prise d'une fièvre extraordinaire, les jeunes sont sortis dans la rue, et moi qui fréquentais le Burkina depuis quelques 4-5 ans, j'avais été surprise à l'époque par le silence qui entourait le nom de Thomas Sankara. Il y avait comme une omerta, et c'est à ce moment-là, c'est le soir, la nuit même où, qui a suivi son assassinat, donc ils ont été retrouvés brûlés vifs, brûlés dans leur voiture, et que la jeunesse a voulu, ça mes amis me l'ont dit, pendant 3-4 jours on a respecté un couvre-feu, etc. Je devais repartir sur Bobo Dioulasso, j'ai attendu, et la jeunesse à ce moment-là est sortie, a voulu aller à la morgue récupérer son corps pour aller l'enterrer auprès de Thomas Sankara dans le cimetière des pauvres là-bas. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et là, ça a été trop, c'est trop. Et le peuple, à ce moment-là, s'est mis à crier sa douleur, sa révolte, justement, pour les droits de l'homme. Donc, on est là-dessus aujourd'hui, non respecté. Et ça a été un moment très, 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 très dense, très intense.
Ça remonte à 20 ans.
Et ça remonte à 20 ans. Et chaque année, il y a la commémoration. Chaque année, bon, vraiment. Et ça a été terrible. Et moi, je dois dire que j'étais affectée, d'autant qu'on évoquait ça 2 jours avant, à Montpellier, avant mon départ, et avec des amis africains, et que franchement, je n'y croyais pas. Je me doutais qu'il était en danger, mais je n'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible qu'un homme comme ça, qui représente ce qu'il représente, quand on sait la valeur de la presse burkinabé, et quand on sait la valeur que cet homme représentait, ça a été quand même quelque chose d'assez terrible. Voilà. Et donc, il y a eu une mobilisation à partir de là. Et l'année suivante, en 99, c'était le 13 décembre 98, en 99, je me suis fait vraiment un devoir de retourner et j'ai assisté à ce moment-là à la commémoration. Et je vous assure, ça a été un très grand moment parce qu'il y avait des centaines de milliers de Burkinabés qui défilaient en silence, dans le plus grand respect, dans le plus grand ordre. Alors peut-être que les Français auraient des leçons à prendre là de cette organisation. Ça a été avec les vieux devant, enfin, et même les handicapés, enfin, ça a été vraiment un moment très, très, très fort qui s'est fini par un grand meeting sur la bourse du travail, où il y avait des sages du pays qui étaient là, où j'ai pu même aller les rencontrer, et où ça a été vraiment une commémoration absolument extraordinaire. Et depuis, les gens n'ont pas lâché, la famille de Norbert n'a pas lâché, et le pays est encore sur cette vraiment sur ce deuil et sur cette injustice. Et je pense que le président Blaise Compaoré, qui s'est permis beaucoup de choses durant ces plus de 30 années de ces 27 années de pouvoir, je pense que quand même plus d'une fois il s'en est mordu les doigts, et que là son petit frère lui a vraiment mis savonner la planche sur laquelle il était. Et la haine de François Compaoré, je crois, du peuple pour François Compaoré, je crois qu'elle est encore plus excessive, elle est pire que celle pour le l'ex-président, parce que vraiment c'est un homme, là il a osé la transgresser un tabou. Et ce tabou, je pense que le gouvernement a dû le supporter, parce qu'il y a eu quand même des grosses manifestations, et que c'est quand même resté quelque chose, et que chaque année, il y a une commémoration très importante avec la presse, et je pense que là, il y a une liberté de la presse qui se constate depuis la chute, depuis les nouveaux gouvernements, et cet anniversaire, cette triste commémoration, et voilà, est faite chaque année, et franchement...
Alors, vous avez voulu marquer justement ce 20e anniversaire, hein, cette commémoration, oui. En organisant...
Voilà,
une soirée.
Voilà, nous organisons pour commémorer. C'est vrai que ça nous est venu comme ça, naturellement, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le nom de Zongo a été automatiquement associé à celui de Thomas Sankara. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose d'indéfectible dans cette association, qui a à voir aussi avec les rapports qu'ils avaient, avec ce que représentait aussi Norbert Zongo. Et donc, on a décidé, là, ce 13 octobre, ça tombe vraiment, de le faire le même jour. Pour moi, ça va être beaucoup d'émotions aussi, puis pour beaucoup de gens, je pense. Et nous organisons ça. Alors, nous allons faire une projection débat. Hein. Alors, il y a un très bon film qui a été fait qui s'appelle Bouribana. Bouribana, avec les acteurs à ce moment-là de la dénonciation, de l'énumération, de la description
de
ce qui s'est passé. Il y a notamment Robert Ménard, qui à l'époque était reporter sans frontières, qui est allé sur place, qui a d'ailleurs été chassé. L'année d'après, il y est retourné. Il a été chassé. Il est reparti la veille de mon départ à moi par le gouvernement à ce moment-là. Et donc, on a choisi un petit extrait, aussi une petite interview de Lambert Zongo de 3 minutes à peu près, où il évoque effectivement la possibilité de son assassinat, comme de tous les gens qui justement ont une parole ouverte. Voilà. Et donc ça aura lieu à la Gerbe. Il y aura des témoignages. Moi-même, je témoignerai. Il y aura des témoignages et il y aura une discussion sur cette liberté de la presse. D'autant que l'actualité brûlante de ces derniers mois, il y a vraiment de quoi dire justement concernant le non-respect des droits de l'homme et particulièrement aussi des hommes d'investigation qui sont les journalistes. Et donc nous allons faire cette soirée. Ça aura lieu donc à la Gerbe, rue Chaptal, à la salle Brunissard, et je rappelle qu'il y a les trams 3 ou 4 qui sont à Ré-Saint-Denis, qui sont tout à côté de cette salle. Et à cette occasion, Vianney, donc, qui fait partie de notre comité, qui était un auteur de bande dessinée, entre autres, qui était un artiste, etc., qui a vécu aussi, lui aussi, en direct à ce moment-là, on ne se connaissait pas, l'assassinat à Ouagadougou, puisqu'il y résidait à ce moment-là. Il a écrit un petit recueil qui s'appelle Parole d'honneur, hein, de Norbert Zongo. Et il profitera de cette occasion pour dédicacer son livre et il le dédicacera dans l'après-midi à General Music à rue de Verdun. Voilà, et puis de 20 à 22 heures pour notre soirée journaliste en danger, journaliste assassiné. Donc à la Gerbe, ce 13 décembre exactement. Voilà.
Alors le comité Thomas Sankara, il faut le rappeler, réunis non pas seulement des Burkinabés.
Tout à fait, des Africains et même des Français, enfin des Occidentaux aussi. Et la vocation aussi du comité, outre de rappeler la mémoire de Thomas Sankara et ses messages, a une mission de lutte contre l'impunité. Donc dans ce cadre-là, nous pensons que nous avions à faire quelque chose, d'autant que les actualités récentes nous ont complètement aussi brassés. Je parle entre autres je pense à la Turquie, mais il y a eu d'autres événements. Et d'autres, s'ils ne sont pas assassinés, en tout cas, souvent, ils sont emprisonnés et ils sont vraiment molestés et empêchés souvent dans leur mission, les journalistes.
Alors, voilà. Où peut-on joindre le comité ?
Alors, le comité... je n'ai pas le téléphone. Je n'ai pas le contact, j'ai oublié. Il y a le président qui peut être joint, mais je n'ai pas son... coordonnées. Et sinon, vous pouvez nous joindre à... Donc, on sera donc à partir de 19h à la salle à la Gerbe. On sera là-bas et on sera joignable à ce moment-là. Et je suis désolée, j'ai pas le numéro de téléphone.
Alors, réécoutons la musique.
Alors, on va continuer Journaliste en danger avec l'évocation de cet assassinat.
La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent. Le sang appelle le sang. Certains chefs d'État se prennent pour des rois de lait, plus royalistes que le roi. Ils ont la boulimie du pouvoir. Et ça, il faut le savoir. Et ça, il vaut mieux savoir.
Oui, alors j'ai retrouvé le téléphone du président du comité Thomas Sankara. Vous pouvez le contacter au 06 85 10 25 60.
Voilà, et je tiens à rappeler que le monde, les amis du monde diplomatique s'associent à cette manifestation. Voilà, et c'est important pour nous.
Alors,
merci.
Je passe au reste du calendrier, puisque dès ce mardi 11 décembre, Montpellier Supagro à l'amphi Philippe Lamour, de place Pierre Viala, vous convie à un colloque « Coopérer dans les filières et les territoires pour une agriculture et une alimentation durable ». C'est organisé par les chaires Agro6 et UNESCO Alimentation du Monde, en partenariat avec la DRAF Occitanie. Et puis, je voulais rappeler que mardi prochain, c'est la Journée internationale des migrants. Et que, bien sûr, il y aura ici, comme dans beaucoup d'endroits en France, une marche au flambeau. Elle débutera à 18h au Pérou. Et de nombreuses association vous appelle à manifester pour cette journée internationale des migrants. Alors notamment, hein, on peut noter que on pourra marcher pour la ratification par la France de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle a été adoptée, cette convention, par l'ONU le 18 décembre 1990, elle n'est toujours pas ratifiée par la France, et pourtant elle vise à garantir l'égalité de traitement entre les travailleurs français et émigrés. Et c'est un des points qui sera bien sûr soulevé. Mais aussi, par rapport à ça, il faut rappeler qu'il y a une pétition du Haut Commissariat aux réfugiés qui s'appelle « Avec les réfugiés ». C'est un message envoyé aux gouvernants sur les droits des réfugiés qui dit stop aux délits d'aide humanitaire et au harcèlement de migrants, parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans beaucoup de pays et notamment en France. Cette pétition donc peut être signée sur Internet. Il faut rappeler aussi que plus de 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force en 2017.
Énorme.
Alors, je rappelle aussi, bien sûr, le Café Actualité de demain, mardi, espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, à partir de 12h jusqu'à 14h. On peut trouver, bien sûr, un buffet sur place et déguster du café du commerce équitable.
Comme d'habitude.
Voilà.
Très bon.
À bientôt, chers auditeurs. Nous poursuivrons lundi prochain avec la marche, justement, internationale pour les migrants.
Au revoir.